20h02 sur Radio G. Tout de suite, c'est l'occasion de retrouver en direct l'équipe de Génération Sport. Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Sport. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle heure sportive sur Radio G. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sur le niveau local et sur le niveau international. Le niveau local, vous le savez, est un petit peu maigre cette semaine puisque c'est la fin de la saison et qu'il y a pas mal de choses qui se concentrent surtout sur les mercatos de chaque équipe en juin. Mais en tout cas, on est là pour parler notamment de tout ce qui va se passer au niveau international avec, vous le savez, vous avez suivi Roland Garros, la finale de la Ligue des Champions, le mercato, la finale NBA qui se sont terminées cette nuit. Bref, on a de quoi parler pendant cette heure. Je vais présenter ceux qui m'accompagnent aujourd'hui. À ma gauche, Faustin, micro bleu. Salut Faustin, comment ça va?
Salut Alex, salut tout le monde. Bah, ça va toujours très bien, malgré une petite nuit cette nuit raison de finale.
En raison de finale. T'as fini les cours ou pas?
Oui, mais bon, j'ai le bac qui arrive.
Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord, donc t'es pas, tu peux faire la grasse mat, voilà, mais il y a quand même voilà, l'objectif du bac, évidemment. Donc voilà, t'as un peu vibré. Ça a été serré ou pas?
Ouais, quand même, c'est Detwer qui a su revenir, qui était mené. Et voilà, c'était sympa.
Très bien. Cédric est à ma droite, micro blanc. Salut Cédric, comment ça va?
Eh ben écoute, ça va super bien, super chaud déjà.
Oui, c'est vrai que là c'est les températures.
Ça y est, ça commence.
Ça tape, comme on dit, hein, évidemment. Toi, ton week-end s'est bien passé aussi?
Ouais. Bah, week-end compliqué à ce niveau sportif, parce que bon, on avait quand même trois gros événements ce week-end, entre les deux finales à Roland-Garros, ouais, le départ des 24 heures du Mans, la Ligue des Champions.
Ouais.
Donc c'est pas forcément évident de tout regarder d'un coup, quand même.
Ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses, mais voilà. Peut-être c'était aussi bien de rester à la maison au frais,
ouais,
plutôt que d'aller dehors là où il fait chaud. En tout cas, voilà, c'est vrai que c'était un très gros week-end avec beaucoup de choses. Donc voilà, on va revenir un peu sur tout ça dans cette heure. Donc au programme, on va rapidement revenir sur les actus locales, donner les dernières infos de transfert. Et puis après, on basculera évidemment sur ce qu'on vient de dire. Voilà, Roland Garros avec beaucoup de choses à dire. Les finales NBA qui seront débriefées par Faustin. Et puis un petit mot de Ligue des Champions et pourquoi pas du mercato avec ce qui se passe en ce moment avec Mbappé et le Paris Saint-Germain. Donc voilà, on suivra ça de près.
Et puis les pronos pour le prochain match de l'équipe de France vendredi.
C'est vrai que voilà, c'est des choses qui arrivent bientôt. C'est vrai qu'au niveau foot, c'est un peu léger. Bah il y a même plus rien en fait. Les gens font des pauses la semaine. Enfin voilà.
Il y a eu quand même pas mal d'événements, puisqu'il y a eu, entre autres, je crois que c'était la Coupe du Monde des U20.
Ouais.
Les U17 aussi.
Ou U17, ouais.
Les deux.
France perd... alors c'est U20 ou U17, où ils perdent au pénalty contre l'Allemagne, en finale.
Ça doit être U17.
Il y a eu ça, enfin il y a... Je crois qu'il y a eu du Cécile Foot aussi.
Il y a aussi le tournoi de l'ancien Allemand, tournoi de Toulon.
Ouais.
Tournoi Maurice Révélo.
Mine de rien, il y en a quand même pas mal, mais bon.
Ça reste
le problème, c'est qu'il n'y a
c'est
pas
moins
de.
Moins médiatique.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Mais bon. Comme tu disais, comme t'allais dire, c'est le lot des années sans grande compétition.
Coupe du Monde décalée.
Ouais. Mais en tout cas, il y a la Ligue des Nations, pour ceux qui adorent cette compétition.
Ouais.
Le Final Four, qui va débuter très bientôt. Faustin, au niveau du local, tu m'as dit que tu avais quelques infos au niveau du transfert.
J'ai vu ça du côté de Cholet. C'est la signature du jeune Lucas Dufil, qui signe donc son premier contrat pro avec Cholet pour 3 ans. Il sort de la Ligue Espoir, où il a tout gagné, visiblement, avec Cholet, justement. Apparemment, ce qui a été dit, c'est qu'il risque de signer un contrat dans une équipe de Pro B, en prêt plutôt, d'être prêté dans une équipe de Pro B, pour se développer plutôt que d'arriver directement en Betclic Elite et n'avoir que très peu de minutes.
Voilà. Donc, peut-être le prêter à Angers.
Ah.
Pourquoi pas hein. Il ferait pas un long déplacement en tout cas.
Non, c'est clair que.
Et je crois que c'est un jeune qui a été très bon aussi au niveau des espoirs en tout cas.
Oui, exactement, c'est ça.
C'est ça, parce que les espoirs sont très très forts à Cholet.
Ouais.
Avec cette académie Gauthier, c'est ça.
Exactement.
Et ça développe bien des jeunes talents du côté de Choletais. Pas d'autres news?
Non, j'ai rien vu d'autre passer en tout cas.
Voilà, c'est assez calme hein. Côté local, on vous a prévenu. Même au niveau du SCO, il n'y a pas grand chose. Et ça commence un peu. Il y a peut-être le directeur sportif qui va partir, mais il y a quelques rumeurs de départ ou de transfert, mais pour l'instant, c'est assez léger.
Tant qu'il n'y a pas eu le passage d'INCG, je pense que.
Oui.
On va attendre avant de parler de transfert.
Et puis, oui, c'est vrai.
Enfin, surtout de mercato, parce que les transferts en soi, ils peuvent déjà les faire.
En fait, pour l'instant, ils ne peuvent pas faire le transfert. Mais ils peuvent pas recruter.
Ils peuvent vendre.
Oui, ils peuvent vendre.
Mais ils peuvent
pas recruter.
Potentiellement ne pas recruter si la FIFA valide.
C'est là où peut-être que les jeunes auront une place importante, sachant que les jeunes sont plutôt bons. Il y a eu ce quart de finale.
Contre le PSG, ouais.
C'est ça, de U19, dont on avait parlé un peu dans l'émission, donc c'est toujours intéressant. Mais bon, est-ce qu'ils garderont tous leurs jeunes? Il y a du vrai talent dans le centre de formation, Baoya, Kalumba, etc., etc. Et donc, voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer. En tout cas, voilà, au niveau du squam ball, 2 arrivées à noter. Corentin Boé, demi-centre, qui jouait déjà du côté de la Pro League. Et puis aussi, un autre joueur qui jouait en Pro League, c'est Alan Santos, gardien brésilien. Donc voilà, qui va rejoindre le SCO en balle l'année prochaine. Il y a déjà pas mal de départs, notamment Mathieu Reuil qui s'en va, Théo Moilec, Swen Miatou Dila. Voilà, donc il y a déjà pas mal de départs du côté du SCO, du SCO en balle, qui prépare surtout sa saison prochaine avec un effectif assez renforcé. On en sait déjà d'ailleurs un peu plus sur le début de saison prochaine, puisque les scoïstes connaissent leur adversaire pour le 16e de finale de la Coupe de France. Ils défieront Toulouse à la patinoire du Haras. Donc on a un peu le temps puisque c'est le 30 août prochain pour voilà voir un petit peu les scoïstes du côté de la Coupe de France.
C'est bien pour préparer Oui, la saison d'avoir déjà la date aussitôt.
C'est ça, c'est ça permet évidemment de surtout d'affronter un gros morceau juste avant d'aller sur la Pro League. Voilà, en tout cas, par contre, voilà, le SCO qui cherche aussi potentiellement un entraîneur pour pouvoir assister Issam Tej. Donc voilà, on va voir comment ça se prépare, mais en tout cas ça avance bien du côté du SCO Handball. Rien d'autre du côté local, on va passer vas-y, je t'écoute.
En basket, enfin j'ai vu l'info sortir aujourd'hui du côté de l'Étoile où il y a un départ d'acté Johan Choupas qui est au poste 2-1 en fait qui a utilisé sa clause de départ et du coup qui va aller jouer du côté de l'Alsace.
OK.
Toujours dans un club de Pro B à l'Alliance Sport Alsace.
Ouais, qui était c'était un bon joueur Johan Choupas.
Ouais,
grosse finale de l'Esports Cup.
Ouais, ça il passait un peu en dessous de Hakim J. Williams mais depuis qu'il s'est blessé, il avait plus la balle quand même.
Ouais, blessé ouais en play-off, enfin pour les derniers matchs au niveau de la play-off, je crois.
Qui ça le joueur qui part Hakim J. Williams ou
Non.
Choupas.
Ah oui, ça va, il a pas joué, oui. J'y étais au match.
Ah ouais, il se blesse à l'entraînement juste avant.
Oui, c'est vrai.
Bah voilà, en tout cas, voilà, c'est important.
Il y a un départ
qu'il va falloir remplacer. Voilà, en tout cas, pour ce qu'on pouvait dire du côté local. On va partir du côté de l'international avec les États-Unis. On va commencer par là. Faustin, on va te laisser la parole pour nous parler basket pendant que c'est encore frais, puisque ça date de la nuit dernière.
Exactement.
L'épilogue de cette saison et le titre Denver Nuggets.
Ouais, parce que comme tu le dis, ça y est, on connaît le champion NBA 2023. La semaine dernière, il y avait 1-1 dans la série, donc une équipe a gagné 3 matchs d'affilée pour remporter cette série. Et c'est donc Denver qui allait chercher d'abord 2 matchs à l'extérieur à Miami, puis s'est imposé donc la nuit dernière à domicile pour fêter ce titre. C'est un quasi sans faute dans cette finale pour Denver qui gagne donc la série 4-1 et concède en tout seulement 4 matchs dans ses playoffs. C'était aussi le tout premier titre de leur histoire, leur toute première finale NBA de l'histoire de la franchise. Jimmy Butler, à mon avis, est passé à travers de sa série et ce qui a largement contribué aux victoires de Denver, même si on ne peut pas dénier évidemment l'incroyable performance de Nikola Jokic, qui est fini largement MVP de ses finales, avec une ligne de stats en 30 points, 12 rebonds et 7 passes décisives. C'est quasiment un triple-double de moyenne, c'est tout simplement énorme. En voyant ça, on peut se dire qu'il aurait peut-être mérité le titre de MVP de la saison régulière.
C'est vrai que c'est clairement le franchise player, comme on dit, hein, de cette équipe des Nuggets. Ouais. C'est vraiment le joueur qui a été impressionnant.
Même sur la saison régulière, c'est un gros pivot, j'ai envie de dire. Mais il fait des choses magiques. Il fait des passes comme les meilleurs passeurs de la ligue, qui sont des meneurs, des choses comme ça. Il a une vision de jeu incroyable. Il a aussi le don pour mettre des shoots venus d'ailleurs, alors qu'il est très très bien défendu. C'est assez beau à voir jouer, honnêtement.
Ouais, c'est un sacré morceau. Mmh. Et c'est vrai que cette année, est-ce qu'il a franchi un cap du coup par rapport à ça?
Concrètement, il était double MVP en titre.
Ouais.
Là, il le perd malheureusement pour lui cette saison. Je sais pas si pour lui, je pense que dans sa carrière, c'est quelque chose qu'il souhaitait, sachant qu'il dit souvent en interview que les récompenses individuelles, il s'en fiche un peu. Donc je pense que c'est tout ce qui lui manquait dans sa carrière, une bague. Peut-être qu'ils ont de quoi aller en chercher plusieurs, à mon avis, avec l'effectif qu'ils ont, la plupart des joueurs sont encore sous contrat pour 2 ou 3 années et sont assez jeunes. Donc ils ont moyen d'aller chercher d'autres titres, ce qui vraiment conclurait la carrière de Nikola Jokic comme une des meilleures de l'histoire de la NBA.
Ouais, surtout pour un joueur qui est européen. Il est serbe.
Serbe, exactement.
Serbe. On reparlera d'un autre serbe dans l'émission, mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant. Et parmi les autres joueurs qui composent cet effectif, tu retiendras qui, toi?
Là, il y a eu Jamal Murray. C'est un joueur, ça fait plusieurs fois qu'il nous fait ça dans la saison régulière. On le voit moyennement, il tourne à une vingtaine de points, pas plus. Et là, en playoff, à chaque fois, il explose. Il tourne à 25 points ou plus, je sais plus. Et il est à la mène, du coup, de Denver. Et il occupe très bien la place de coéquipier de Nikola Jokic, à mon avis. S'il serait dans une autre équipe, il aurait largement sa place en tant que franchise player aussi.
Ok.
Voilà.
Et au niveau de la saison, dans sa globalité, qu'est-ce que tu vas retenir comme... Comme joueur, comme image, comme moment important de cette saison.
Cette saison, la série qu'a fait Miami quand même.
Ouais.
Ils partent huitième, ils battent les premiers, ils battent les quatrièmes, ils battent les deuxièmes pour finalement perdre en playoff, en finale.
Ouais.
Mais c'est une saison, c'était inattendu, personne ne l'avait dit. Je pense que personne ne les voyait à ce niveau-là, surtout en ayant vu leur saison. Après, ce qu'on peut retenir aussi, malheureusement, je pense que c'est... ce qui s'est passé un peu sur la fin avec Ja Morant, qui a été vu à deux reprises en possession d'armes dans des lives Instagram. Du coup, c'est un peu triste pour ce joueur.
C'est un joueur prometteur.
Bah oui, tout à fait. Il faisait une énorme saison. Il a été du coup pas banni, mais
suspendu.
Voilà, quelques matchs par son équipe. Et là, Adam Silver, le président de la NBA, va donner son verdict suite à la nouvelle affaire qui a éclaté ces derniers temps. Il attendait la fin de la saison justement pour donner son verdict. À voir, il peut risquer d'être suspendu la moitié de la saison prochaine, quoi.
Ok.
Ce qui serait un véritable coup dur pour son équipe.
Est-ce qu'il y a une équipe qui t'a déçu peut-être cette saison?
Qui m'a déçu, j'ai envie de dire les Pelicans.
Ok.
Qui ont pas réussi à accrocher des playoffs alors que ça fait plusieurs années qu'ils ont la même équipe avec des joueurs prometteurs comme Brandon Ingram, Lonzo Ball qui s'est malheureusement blessé toute la saison et ainsi que Zion Williamson qui lui aussi c'était numéro 1 de draft 2019 qui était extrêmement prometteur, il était dit comme le nouveau LeBron James etc. Mais pareil, il se blesse tout le temps, il a pas une bonne hygiène de vie, là il a encore été mis dans des affaires de tromperie avec sa femme et tout comme ça. Et ça tourne au vinaigre pour eux, quoi. Ils n'arrivent pas à dégager quelque chose d'une équipe qui est pourtant sur le papier très bonne.
Ouais, ok. Et au niveau de tes fameux Raptors?
Ah, mais Raptors, ils m'ont un peu déçu aussi, j'avoue, à pas aller décrocher des playoffs. Là, sur la fin de saison, on s'est séparé du coup du coach, qui avait fini coach de l'année, avec qui on a gagné le titre. Il a été remplacé aujourd'hui, j'ai plus le nom en tête du nouveau coach. Mais voilà.
Ils ont terminé combien du coup de la conférence?
À la fin, je crois que s'ils ont été dixième.
Ouais.
Et en gros, ils ont perdu. Ils ont gagné leur premier match de play-in. Et ils ont perdu le deuxième contre Miami.
Ok. Et du coup, ils n'ont pas été pour la draft là. Ils ont pas eu.
Ils avaient 1% de chance à la loterie.
Pour le pick one.
Ouais, c'est ça. Et du coup, ils ont eu, de mémoire, le 12e, je crois.
Ah oui, donc c'est pas
dingue, mais la dernière fois, on a eu le 8e, et c'était Scotty Barnes qui a fini rookie de l'année.
Donc, faut trouver la bonne pépite, quoi.
Voilà, c'est ça.
Tout simplement.
Et bon, là, avec Victor Wembanyama dans la draft, ça m'étonnerait que oui, le 12e finisse rookie de l'année, quoi.
Oui, bien sûr, évidemment, mais voilà, peut-être un autre bon joueur. Justement, tu parlais de la saison prochaine avec Wembanyama, qui va aller du côté des Spurs, vraisemblablement, sans grande surprise. Du coup, voilà, ça va être aussi le début de, pas d'une nouvelle ère, mais peut-être le début d'un grand monsieur.
C'est clair, il a tout pour, en tout cas, il a les qualités physiques et athlétiques, s'il se développe bien, s'il est bien entouré, il a tout pour faire une très, 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 très grande carrière en NBA.
Coaché par Greg Popovich.
Voilà, exactement. Et pris sous l'aile de Tim Duncan.
C'est ça.
Ça fait rêver.
Ça fait rêver. Ça parle de rumeurs par rapport à une arrivée de Evan Fournier, peut-être.
Au Spurs.
Pour épauler justement.
Ça peut être cool pour lui, pour Evan Fournier aussi.
Ouais, qui peut retrouver du temps de jeu, qui a été écarté des Knicks. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur le basket. Rien à rajouter. Si peut-être du coup la Belle Elite.
Oui, c'est pas vrai.
NBA, non, du coup, NBA.
NBA, il me semble que c'est bon.
Ok, très bien.
Je peux te rappeler la date de la draft, c'est dans la nuit du 22 au 23.
Ouais, très bien. Ça va être dans une dizaine de jours. Voilà, par rapport au championnat de France ou à la Betclic Elite, c'est la finale.
Ouais,
en ce moment même. Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous.
C'est la finale oppose Monaco au Metz. Et les deux premiers matchs se sont disputés en terre monégasque. Et c'est à domicile que les Monégasques ont donc remporté les deux premiers matchs. Le premier sur le score de 87 à 64, où ils ont réussi à bien museler Wembanyama, qui n'a pu mettre que 8 points. Et le deuxième match s'est fini donc sur le score de 95 à 88. Il y a donc 2-0 dans la série pour Monaco. Je rappelle que c'est le premier à 3 qui remporte le championnat. Les Mets sont donc dos au mur. Ils sont obligés de faire un reverse sweep. Et cela peut commencer dès jeudi où ils jouent à domicile. Et d'ailleurs, leurs deux matchs à domicile pour les Mets, ils les joueront à Roland-Garros.
Et oui. Voilà, c'est vrai que ça va être sympa pour eux de jouer là-bas.
Ouais, ils aiment bien jouer dans des salles ailleurs que leur salle principale.
Ils ont joué à Bercy, je crois.
Ouais, c'est ça, plusieurs fois. Donc, c'est original, ça. C'est les seuls à faire ça un peu. Donc,
C'est toujours intéressant, et puis surtout quand t'as un joueur comme Wembanyama. Mm. Ça nous fait une transition de trouver pour parler de Roland Garros. Est-ce que vous avez suivi un peu, messieurs, ces finales, en tout cas, ce qui s'est passé sur la fin?
Moi, j'ai suivi celui que j'avais pronostiqué, quoi.
Vas-y.
Bah, j'ai pronostiqué Djokovic.
Ah, d'accord, ok. Donc, t'as dû suivre, évidemment, ce qui s'est passé.
J'ai suivi, j'ai regardé la finale.
Demi-finale aussi?
Ouais, demi-finale. Même le quart et les huitièmes, j'ai regardé.
Cédric, de ton côté, est-ce que t'as pu suivre un peu?
Alors, les finales femmes, j'ai vu la fin. Mais bon, c'était pas sans surprise, quoi.
Ouais.
Puis les hommes, j'ai regardé un peu plus. Wow. Dommage. Enfin, en termes de scénario, on avait quand même un premier set qui était très serré. Ouais. Et puis, deuxième et troisième, tu sens qu'il y a un gros coup de massue. Et c'est un peu
d'écart.
Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé, en fait. C'est réellement quand tu tiens comme ça sur le premier set, de la façon qu'il le mène.
Ouais.
Tu te dis, bon, ça va passer, ça va revenir. Et puis là, une fois que la machine a été enclenchée, ça a été à sens unique. Quoi.
Et puis, ce qui était une finale avant l'heure, c'était cette demi-finale entre Carlos Alcaraz, qui était l'un des gros favoris pour le titre, et Novak Djokovic. Justement, c'était vraiment le combat des titans qui avait eu lieu donc vendredi après-midi. Et donc, c'est le Serbe qui s'est imposé, puisque c'est le Serbe qui a remporté le tournoi, évidemment. Et puis, voilà, surtout, on s'attendait à un match encore plus serré, encore plus beau. Mais malheureusement, on a eu affaire à une blessure de Carlos Alcaraz qui, alors qu'il était plutôt bien dans le troisième set, s'est blessé, crampe. Il a même laissé le jeu à son adversaire. Son jeu de service à lui, d'ailleurs.
Oui, je prends une pénalité pour ça. C'est dans le règlement, en fait.
Il s'est blessé et il a dû aller à sa chaise et demander un kiné, sachant que c'était pas le moment de faire changement de terrain.
C'est un petit peu hallucinant, quand même. Enfin, c'est des mecs qui jouent quasiment 365 jours à droite à gauche et dès qu'ils ont un petit pépin physique comme ça, enfin. En plus, ça s'est vu, c'est pas le... On voit clairement qu'il simule pas, quoi. Et derrière, tu dois continuer à jouer blessé, et puis une fois qu'il y a le tour, vas-y, tu pourras. Mais sauf que, ça aggrave les blessures, généralement. Enfin, je trouve ça un peu débile au niveau du règlement. Qu'il soit limité dans le nombre d'interventions, en soi, ça je comprends, parce que bon... C'est très facile quand t'es dans le doute de demander l'intervention du kiné ou des trucs comme ça, tu sors une dizaine de minutes, parce que je crois que c'est limité à 10 minutes,
ouais.
Et tu reviens un peu plus frais et tout, et là tu changes le truc. Mais là, clairement, quand t'as une blessure comme ça, il laisse son service.
Le règlement est d'ailleurs un petit peu, je vais pas dire stupide, mais presque. En gros, le règlement, c'est que quand tu as des crampes, t'as pas le droit de demander le kiné, donc quand c'est pas un changement de terrain.
Ouais, ouais.
Par contre, si tu dis que c'est plus grave, là t'as le droit. Si tu dis que c'est plus grave, là tu peux avoir une petite en gros dérogation. Et en fait, Carlos Alcaraz a été complètement net, a dit directement que c'était des crampes et a dit directement qu'il voulait le kiné et qu'il savait qu'il allait perdre un jeu. Donc c'est ça qui est assez intéressant sur ce cas-là. Je vais revenir sur le match. Je sais pas si vous avez regardé. Donc toi, Faustin, oui.
Ouais.
Les deux premiers sets étaient à un niveau incroyable quand même.
Ouais, c'est le meilleur tennis qu'on puisse faire en ce moment, à mon avis. Hein. On ne pouvait pas avoir un meilleur match qu'un Alcaraz-Djokovic.
Ouais.
Numéro 1 contre numéro 3. Alcaraz, il est jeune. Et on a remarqué très vite que sa spécialité, c'était plus la terre battue quand même.
Ouais.
Donc, il avait moyen de peut-être plus briller que ça. Mais c'est clair que les deux jeux, c'était... Les 2-7, oui, à montrer dans les écoles de tennis.
Ouais, c'est clairement ça. Et puis ce point, je sais pas si vous l'avez vu, où il va le chercher très très loin de derrière. Alors évidemment à la radio c'est difficile de décrire, mais voilà, c'est un point qui a beaucoup tourné, et c'est vrai que ça montrait que Alcaraz avait beaucoup de talent et qu'il pouvait répondre à Djokovic. Mais du coup, on est obligé de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de défaillance au niveau mental pour Alcaraz, au niveau de la pression, en fait, que cette pression s'est ressentie au niveau de son jeu et du coup de son corps, surtout sur cette demi-finale.
Bah, peut-être que si, justement, c'est là où l'expérience fait la différence, parce que bah, Djokovic, 22 grands chelems avant ce match, enfin oui. au moment du match, à son palmarès, et Alcaraz, bah, qui n'a que 20 ans, comme je disais tout à l'heure, c'est là que peut-être qu'on voit la différence, et que dans plusieurs années, Alcaraz gagnera dans ces conditions-là.
Toi, Cyril, qu'est-ce que tu en penses ?
Je pense pas que c'est le mental à son niveau quand tu es à cet âge-là, numéro un mondial. Je pense que t'attends que ça, que ce genre de match.
Ouais.
Là, c'est juste vraiment, je pense, quand le corps dit stop, il dit stop, quoi.
Ouais, il a tranché. Il avait été un peu blessé.
Déjà, il y a eu des alertes il y a un mois ou deux. Je sais qu'il avait fait forfait pour certains tournois sur terre battue. Donc, c'est pour ça, je pense pas que c'est mental, quoi. C'est vraiment plus le corps qui a dit stop à ce moment-là, au mauvais moment. Il a quand même fait des matchs assez rapides, donc normalement il était bien frais.
Ouais.
Mais quand ça veut pas, hein, c'est un peu dommage pour lui.
Bah forcément, mais ça aurait pu surtout, même pour les supporters, donner une super confrontation entre les deux. Sinon, par rapport à Djokovic et donc à sa finale gagnée, on est revenu un peu avec toi, Cédric, sur le scénario de cette finale, sur l'après, sur ce trophée encore remporté par Djokovic, ce 23e Grand Chelem, on rappelle, record dans l'histoire du tennis masculin. Est-ce que ça le fait rentrer justement dans le titre, on va dire, de meilleur joueur de tous les temps? Est-ce qu'on est obligé d'aller jusque-là, ou est-ce que vous êtes un peu dubitatif?
Si on parle que de chiffres, oui.
Ouais.
Clairement, bah voilà, 23. Nadal, bon, on sait pas combien de temps il lui reste, hein, mais bon, peut-être une ou deux saisons, je pense.
Ouais.
Vu que les pépins physiques arrivent en plus, donc il pourrait l'égaler, on va dire, au minimum.
Ouais.
Après, non, pour moi, c'est pas forcément... Enfin, sur le chiffre, on peut pas le juger comme le meilleur...
Sur les chiffres,
on peut le juger.
Ouais, ok.
Mais
après, sur le terrain,
sur tout, ouais, c'est compliqué. Il y a le matériel qui a évolué. Il joue beaucoup plus de matchs aussi. Maintenant, t'as beaucoup plus de choses comme ça qui rentrent en compte pour vraiment désigner le meilleur joueur. Et c'est ça. Par contre, ce qui est au final intéressant, c'est que si tu prends les trois qui pourraient prétendre à ce, on va dire, de l'ère moderne de tennis, eh ben, au final, tu retrouves un Federer gazon, qui a, je crois, au moins 11 titres à Wimbledon.
Ouais.
Nadal, qui a vraiment un max de titres à Roland-Garros.
Ouais.
Et Djokovic, qui a un max de titres à...
Sur dur.
À
Melbourne.
À Melbourne, surtout.
Et à l'US Open.
Ouais, c'est à Melbourne où il en a le plus.
Ouais.
Et là, du coup, si tu commences à chercher qui est le meilleur joueur, tu peux, toi, un peu plus...
Oui, parce que le tennis aussi, ça dépend du terrain.
C'est ça. Mais si tu prends juste ces trois-là, tu vois, si t'enlèves vraiment leur spécialité, ça joue à pas grand-chose, en fait, les écarts de titres sur tel ou tel grand chelem.
Toi, Faustin, qu'est-ce que t'en penses?
C'est vrai que peut-être que dans le personnage, déjà, est moins apprécié, il est moins populaire. Et c'est peut-être ça qui lui fait plus défaut dans le fait qu'on ne peut pas le mettre meilleur joueur de tous les temps.
Ouais.
Malgré que son jeu pur, il est excellent. Et c'est comme ça qu'il gagne 23 grands chelems. Mais je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur de tous les temps. C'est vrai que c'est quand même vachement compliqué à définir au tennis. vu comment ça a été serré, justement, comme Cédric, tu le disais, entre les trois, Federer, Nadal et Djoko.
Et tellement on est tous un petit peu liés à un des trois.
Ouais, c'est ça.
Après, c'est le des trois, c'est le plus jeune.
Oui,
en bah, termes de lui, carrière.
Il peut, il peut en gagner encore beaucoup. Vrai, enfin, beaucoup, je sais pas, mais il peut aller sur des bases 25-26. Il a d'ailleurs, il est toujours en course pour faire son premier grand chelem calendaire.
Ah, le vrai grand chelem, oui.
Le grand chelem, on va dire, qu'il n'a jamais fait, qu'il a failli avoir, je crois, il y a une année. Et que là, il peut encore faire, puisqu'il a gagné donc, l'Open d'Australie et Roland Garros. Et dans quelques mois, voilà.
Ah, dans quelques semaines, ouais. Voilà. Wimbledon, ce qui va arriver très vite.
Si gagne Wimbledon, il sera en course pour aller chercher quelque chose de complètement historique. Ça, c'est clair. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur le tennis. Rien à rajouter sur l'ensemble du tournoi. On a déjà parlé un peu des Français l'année dernière. Enfin, la dernière et la semaine dernière, surtout. Pas grand-chose à dire. Non,
Gaël, mon fils, est le seul...
Un sacré match.
Ouais, c'est un des seuls, du coup, ils sont avoir fini le tournoi sur une victoire. Ça, c'est...
Oui, c'est vrai. Voilà. Bah, c'est même le seul, du coup, puisqu'il y a des gars forfaits.
Avec Djokovic, c'est le seul, en fait.
Oui, c'est ça. C'est bien vu de ta part, Faustin, en tout cas. En tout cas, un match disputé.
Voilà, c'est ça.
Bref, en tout cas, effectivement, il y a eu un sacré tournoi de Roland-Garros cette année. On va passer à la pause musicale maintenant, si vous voulez bien. On va s'écouter SDM et son titre Beau idéalement. Et on va se retrouver juste après.
Volume joint d'avant. Volume joint d'avant. Grosse voiture allemande, démarrage, te mets à l'amende, vend ta femme. Hey, si je le sens, ils vont détaler. Dans le bendo avec les beaux sur la frappe, ça vole des tours. On débite, ça t'étonne. Je veux pas être ami avec eux. Il manque de l'autre, donc moi je suis pas ami avec eux. Hauteur, c'est pas hybride, c'est V12. Mon cheval est gagnant, je veux faire du shopping à V2. On passe tous à la barre, mais aucun nous passe aux aveux. Maintenant ça va, j'encule la vie d'avant. J'ai que ma bite est vain, j'la dégomme sur le divan. Et derrière, j'suis devant. Eh, la sortie de peau, c'est bon, j'suis plus là. À la vue, 1, 2, j'ai les portes dans le rétro. 3, 4, sortie de peau, j'suis dans le bolide allemand. J'vais chercher ma baby en gros bolide allemand. Eh, maintenant ça va. J'ai tous les contacts, mais j'ai aussi les bons plafonds. Hey, le beurre à France est fait tomber le savon. Dans le bendo, plus ça va, plus ça débite et plus ça va. Hey, maintenant ça va, faut que la vie d'avant. Hey, j't'allume si on n'arrive pas à négocier. Mes amis, c'est mes rêves, on s'en prend avec les yeux. Embrouille, on y va, c'est mon gun qui va causer. J'ai un cohiba, elle a mon sperme dans le gosier. Ramène-moi ton boss, c'est pas avec toi que je veux causer. SDM en top tendance, j'suis dans le fer avec Eza. Avec Eza, bolide allemand, j'suis cosy. On va au Turbélise, on ramasse ta sœur et ta cousine. Ah, j'accélère salement. Ouais, ouais, j'suis dans bolide allemand. Hey, j'suis taillé de ouf. Taillé de ouf. Hey, sortie de boss, c'est bon, j'suis plus là. À la vue, 1, 2, j'ai les bords dans le rétro. 3, 4, sortie de moi, je suis dans le bolide allemand. Je vais chercher ma baby en gros bolide allemand. Eh, maintenant ça va. J'ai tous les contacts, mais j'ai aussi les bons plafonds. Eh, le beurre à France s'est fait tomber le savon. Dans le bendo, plus ça va, plus ça débite et plus ça vend. Eh, maintenant ça va, faut que la vie d'avant.
De retour dans Génération Sport pour la suite et fin de votre émission sportive de la grille. Vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou bien sur www.radio-g.fr. On est ensemble donc jusqu'à 21h pour parler de sport avec tout ce qui s'est passé, notamment au niveau football avec cette finale des champions. On fera un point aussi sur le cyclisme, le rugby et puis sur ce qui s'est passé pas si loin de ça au Mans pour les 24 heures du Mans. On va donc parler maintenant de football avec cet événement qui vient clôturer un peu cette saison de foot de club, cette finale de Ligue des Champions entre Manchester City et l'Inter Milan, une finale qui donnait peut-être pas forcément envie à tout le monde, mais qui pour certains voilà méritait le coup d'œil. Au final, on a été un petit peu déçu par cette finale. Alors pour le scénario de la rencontre, c'est assez simple. Il y a eu 1-0 donc pour Manchester City, but de Rodri à la 68e minute de jeu, qui a été donc le seul buteur de la rencontre. Sinon, il y a eu des vraies occasions hein, sur la fin pour l'Inter Milan, notamment par l'intermédiaire de Romelu Lukaku, et puis grosse partie pour Ederson dans les buts. Messieurs, qui avaient vu le match, qu'est-ce que vous en avez pensé? Aussi un peu déçu, Faustin?
Ouais, un peu. On s'endormait un peu. Il y a pas eu énormément d'action, à part le but et, comme tu le disais, la fin de match où l'Inter ils ont tapé la barre, ils ont eu le tir cadré qui aurait pu rentrer sans Ederson. Mais dans la globalité, quand même, c'était pas très agressif comme finale. Et puis, ce qui m'a déçu aussi, c'est Haaland qui a été assez invisible pendant cette finale, qui a eu une occasion où il aurait pu marquer.
Ouais, une ou deux, ouais, mais c'était dans un angle fermé, quoi.
Ouais, c'est ça. Et sinon, il n'a pas eu beaucoup de ballons. Il a limite été plus présent en défense sur les corners pour défendre de la tête qu'en attaque.
Ouais. C'est vrai que toi, je crois que tu as vu que la fin, mais qu'est-ce que tu en as pensé un peu?
Final. Alors, sur le papier, ça pouvait être intéressant, je trouvais. Surtout qu'avec un Inter, ça faisait des années, voilà, qu'ils étaient parvenus. La City, où on savait, voilà, que c'était le premier titre qui allait arriver en cas de victoire. Enfin, c'était le rendez-vous historique pour eux. Sur le papier, ils étaient largement favoris, hein, de toute façon.
Ouais, ouais.
Quand on voit leur parcours, que ce soit aussi bien en championnat, enfin. C'est le titre de champion d'Angleterre.
Ils font le triplé. Hein.
Un
triplé historique.
C'est l'équivalent de la Coupe de France en Angleterre ou c'est jamais
dit. Non, c'est
la FA Cup.
La FA Cup, c'est l'équivalent de la Coupe de France. L'autre, la Carabao Cup, c'est la Coupe de la Ligue.
Et voilà, puis ils ont fini en apothéose du coup avec cette Ligue des Champions. Alors ouais, comme tu dis, il était un petit peu. En dessous, bon, déjà en demi-finale aussi, ça avait été le cas. Mais bon, au final, il finit quand même meilleur buteur
de la compétition.
De la compétition. Donc, voilà. Après, il prouve aussi qu'il sait se mettre aussi au service du jeu, quoi. C'est pas qu'un simple buteur pour moi. Je trouve qu'il fait quand même le taf quand il faut.
Ouais, il progresse là-dessus.
Il sait être complet. De toute façon, c'est un peu ce que Pef. Guardiola veut de lui, hein. Il veut plus qu'il soit une machine à but.
Ouais. Bah moi, c'est ça que je trouve intéressant avec Manchester City, c'est qu'on a une vraie progression tout au long de la saison. On avait une équipe qui était au début pas forcément bien rodée partout, qui devait se faire à ce nouveau système, un système assez bizarre puisque c'est un 3-2-4. Avec un vrai buteur, alors que l'année dernière ils jouaient sans véritable neuf, ils jouaient en faux neuf, et donc là ils doivent faire avec un finisseur, un très très bon finisseur, sûrement le meilleur du monde, et voilà, ils jouent avec une certaine adaptation tactique, avec notamment John Stones qui à la base est un défenseur central qui joue au milieu de terrain et qui est d'ailleurs très bon. Et voilà, on a une vraie équipe qui s'est mise à jouer, à développer ce football attrayant au fil de la saison. Et puis voilà, c'est comme ça qu'ils ont pu remonter sur Arsenal en championnat. C'est comme ça qu'ils ont pu gagner la Cup. Et puis c'est comme ça qu'ils ont pu éliminer Leipzig, le Bayern. Le Real et puis samedi l'Inter Milan. Sinon sur Haaland, est-ce que c'est potentiellement pour vous un prochain Ballon d'Or? Les débats vont revenir rapidement, mais est-ce que ça va être
logiquement c'est lui le Ballon d'Or cette année?
Ouais.
Si on regarde sur le jeu, il y a pas photo.
Mais
malheureusement
sur le stade surtout, il y a pas photo.
Ouais, c'est ça. Mais malheureusement,
meilleur buteur en championnat, enfin. Meilleur champion, meilleur des champions, enfin, saison complète. Ouais, voilà, il y a pas
de... voilà, il va devoir se battre avec la Coupe du Monde de Lionel Messi. Et ouais, ça, pour les gens, peut-être que ça compte.
Ouais, enfin, même Messi en Coupe du Monde, je suis désolé. C'est pénalty, 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 hein, en gros. Après, voilà, ce que je trouve dommage, j'ai regardé, c'est que le Ballon d'Or va être remis qu'au mois d'octobre.
Ouais.
On pouvait pas le faire maintenant. Ça paraît très logique, les saisons sont finies.
Tu te rends compte que quand c'était sur la période d'un an, mais genre année civile, ouais. C'était en décembre. Ouais. Là, quand c'est la saison et donc ça se termine en juin, c'est en octobre.
Ouais.
Et qu'ils mettent trois mois. Quoi.
Octobre, ça ne m'aurait pas dérangé si la Coupe du Monde avait eu lieu là, toi.
Ouais.
Alors, on va dire.
Comme la dernière fois.
Voilà, on va dire ça se finit en gros au mois d'août. Ça laisse le temps, voilà, de faire les pré-votes, après faire les votes finaux. Et là, c'est.
Voilà, ils ont 5 mois pour voter.
Ils ont 5 mois pour voter.
Ouais, ça.
Il suffit d'un truc tout con. Ils vont reprendre le championnat. Ils se blessent. Ça va jouer forcément dans le masculin parce qu'ils vont dire ah bah oui, il est moins performant. Si on parle de période à période.
Non, mais, non, la période, ça se termine. Là, c'est terminé.
Ouais, c'est sur la saison 2022-2023.
Oui, mais sauf que les votes, ils ne sont pas maintenant.
Oui, tu veux dire dans l'imaginaire collectif. Okay. Si on a un...
ça va voter comme ça. Ça va voter sur le ressenti du moment.
Ouais, c'est ça. En gros, ce que tu veux dire, c'est que potentiellement, si Haaland par exemple se blesse au début de saison et que Messi, qui est d'ailleurs signé en MLS à l'Inter Miami, cartonne, peut-être qu'on aura, selon toi,
je suis en train de me
demander... l'esprit des gens, en fait.
Messi en jouant en plus en MLS, ce serait pas potentiellement son dernier Ballon d'Or.
Bah si, clairement.
Parce que derrière, après, il est plus éligible à être dans la liste.
Si, alors, il est éligible depuis quelques années. Ils peuvent les joueurs qui jouent dans d'autres, enfin ailleurs qu'en Europe, peuvent. C'est pas seul. Alors, d'abord, c'était que les Européens qui jouent en Europe. Après, c'était tout le monde, mais qui joue en Europe. Et maintenant, c'est tout le monde sur la planète. Parce que Neymar, je crois que c'était 2012 ou un truc comme ça, 2013, avait fait un top 5 en jouant à Santos. Il jouait pas en Europe à l'époque. Et donc voilà. Mais si jamais il peut.
Non, il pourra encore. Mais bon, moi je la sens bien aussi.
Toi, tu préférais Haaland, toi, si tu devais choisir Haaland.
Sur toute une saison, toute compétition confondue, ouais, il est largement dessus.
Enfin, toute compétition quoi. Ah oui, pardon.
Si toute.
Oui, pardon. J'ai cru que tu disais toute saison confondue. C'est moi qui ai bugué. Toi, Faustin, pareil, Haaland.
Ouais, j'aurais mis Haaland aussi, mais à mon avis, ça risque malheureusement d'être Messi.
Bah, je suis d'accord avec toi. En fait, moi, j'aimerais bien que ce soit Haaland, mais je pense que Messi a trop de cotes. C'était comme il y a deux ans, il était trop coté. Il était très coté aux yeux des gens.
Quand tu gagnes juste,
et que les gens votent Messi, pas par défaut, mais parce que c'est Messi. Ouais. Et après, maintenant, il y a le critère en moins de la carrière, je crois, parce que voilà, ouais, ça a été réformé, et il y a moins le critère de l'ensemble de la carrière. Donc, ce sera vraiment la saison donnée. Et cette saison, il fait une plutôt bonne saison en Ligue 1, mais derrière, en Ligue des Champions, il s'arrête en 8e. Et puis, la Coupe du Monde, alors, certains diront qu'elle est très bonne, certains diront, comme toi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pénaltys. Mais bon, voilà, c'est vrai que pour moi, ce sera un mano à mano entre les deux, donc ça va être intéressant à suivre.
Le problème, c'est que c'est aussi le système de vote du Ballon d'Or qui est très bizarre.
Ça a été réformé. Aussi, parce que c'est plus tous les journalistes du monde, c'est les 100 pays au classement FIFA. Voilà, il y a un journaliste par pays.
Ouais, mais dans les 100, t'as certains pays, je suis pas sûr qu'ils connaissent le. Ils vont connaître plus facilement Messi
que
Haaland.
Ouais, bon, on verra ça évidemment pour l'année prochaine. On a le temps d'en rediscuter. Au niveau du football, on a surtout beaucoup de nouvelles au niveau transfert qui sont faites d'ailleurs cette semaine. Messi, on l'a dit, a signé du côté de l'Inter Miami, donc en MLS. On l'attendait du côté du Barça, il ne sera pas là. On l'attendait pourquoi pas aussi au niveau de l'Arabie Saoudite, il ne sera pas là. Et le voilà du coup du côté de l'Inter Miami. Vous en pensez quoi? Vous avez aimé le revoir au Barça?
Oh, j'aurais adoré, moi.
Ouais, c'était, bah oui.
Ça aurait été une fin de carrière
parfaite pour lui.
Voilà, c'est ça, où il finit en ovation à chaque match. Je pense il aurait fait un ou deux ans, je pense. Après, il aurait pu reprendre une retraite tranquille. Mais là, en MLS, il a peut-être comme ambition de sauver un club. Parce qu'il me semble que l'Inter Miami n'a pas fait une très bonne saison.
Bah, ils sont derniers actuellement.
Ah, bah, voilà. Ah, c'est la 10e journée là, qui va arriver. Donc.
Ouais.
Ah oui, c'est vrai que c'est décalé.
Ouais, là-bas. Ouais.
Mais j'ai vu aussi dans son contrat, il y a un truc, certitude de pouvoir racheter une franchise de MLS. Donc j'imagine que ça a dû aussi pas mal peser dans la balance entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis.
Je suis pas sûr tout à fait que ce soit ça. Quand on voit toutes les conditions pour son transfert, enfin son arrivée, parce que c'est pas un transfert puisqu'il part libre, c'est un montage financier clairement.
Ouais.
En fait, c'est pas le club de Los Angeles qui sort l'argent.
De Miami.
T'as
dit Los Angeles.
Oui, enfin oui. Mais... Et du coup, en fait, c'est l'intégralité des clubs en fait qui ont mis la main aussi. Donc déjà, c'est un petit peu hallucinant, je trouve, ce concept-là. Après, on lui promet des parts, enfin, pour moi, c'est plus une magouille un peu financière plutôt qu'un transfert. Après, voilà, il va pas à Barcelone. En même temps, à Barcelone, logiquement, il n'y a pas d'argent.
C'est pour ça que ça, d'ailleurs, ça
lui a pas d'argent, donc déjà de.
Ouais, il serait allé.
Il aurait kiffé y aller, mais.
Je suis pas sûr. Franchement, quand tu vois comment il a parlé du club, juste après que ça a été validé, à Miami, je pense que c'était juste du bluff, comme il fait à chaque fois pour faire monter un peu sa cote. Et, après, je pense que de base, de toute façon, c'était bien le projet, Arabie Saoudite, hein.
Ouais.
C'est juste parce que ça, il y a eu veto du côté de sa famille et,
ouais.
Surtout du côté de sa femme, parce que c'est quand même bizarre. Tu vas pas faire ton espèce de voyage dit oui mais je suis comment ils appellent ça
ambassadeur. Oui, c'est vrai qu'il est ambassadeur.
Il est ambassadeur et puis on lui propose un contrat puis non finalement j'y vais pas. Il dit que c'est pas l'argent. Ça peut peut-être ok là-dessus, mais enfin on entend surtout ce qu'on est ressorti, c'était plus sa femme. Qui soi-disant se sentait pas bien dans le pays.
Ouais, ouais.
Et quand tu vois les photos qu'il y a eu avant, mais ça c'est la communication avec Messi. Hein. Enfin même la façon qu'il a parlé de Paris, enfin c'est.
Oui.
C'est un peu hallucinant, mais le problème de Messi c'est juste que il a toujours été dans son espèce de cocon. Voilà et dès que tu parles mal de lui, il prend la mouche, moi je suis le meilleur joueur, nanana, mais c'est les gens qui comprennent pas, enfin c'est son attitude par rapport à ça, et
ouais.
Ça devient agaçant, et je trouve, enfin voilà, ça relance encore, tu vois, le débat réellement si c'est le meilleur joueur actuellement ou pas, tu vois.
Ouais.
Avec un Ronaldo, alors qui a un parcours, lui, voilà, qui a pris des risques d'aller jouer à droite à gauche, tandis que tu prends Messi, son parcours, ça a été Espagne, France, États-Unis.
Ouais.
Et encore, en championnat, voilà, on a vu ce que ça a donné.
Tu parlais de l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite a signé un grand joueur, puisque Karim Benzema a donc signé du côté de Al Ittihad, qui va donc rejoindre dans le championnat Cristiano Ronaldo. Au niveau des gros transferts, on a aussi. Et surtout, la bombe qui est arrivée hier soir, c'était Mbappé qui a annoncé qu'il ne prolongerait pas d'un an son contrat avec le Paris Saint-Germain. Il est donc lié au club jusqu'en 2024. Il doit terminer normalement, en tout cas c'est ce qu'il comptait faire, sa saison du côté du PSG et partir libre. Voilà, c'est un vrai souhait chez lui. Il l'a dit que actuellement les rumeurs Real, il les a démenties. Et il a également, par contre, dit que il ne comptait pas prolonger et qu'il n'a jamais été en discussion avec le PSG pour prolonger. Et du coup, le PSG a pas annoncé, mais il y a des rumeurs comme quoi le PSG donc laisserait un ultimatum à Kylian Mbappé en disant soit il prolonge d'un an, soit il est vendu car le PSG ne veut pas qu'il parte gratuitement pour un joueur de ce niveau, effectivement, voilà, le voir partir pour pour Walou, j'ai envie de dire, alors que on met un salaire dingue dans ce joueur et qu'en plus on a mis 180 millions à son arrivée plus tous les passe-droits qu'il a eu et que le gars va partir gratuitement sans rapporter rien au club, ça c'est vrai que le point de vue du PSG peut s'entendre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu un problème au niveau de la négociation du contrat 2025 avait été annoncé. Effectivement, ça aurait été peut-être plus clair de mettre 2024 notamment sur le maillot lors de la présentation.
Oui, tu mets de 2024 plus 1 quoi.
Ouais, c'est ça, en tout petit, tu mets.
Le plus simple, tu pouvais le mettre. Enfin,
ou alors tu mettais juste son numéro et après ça.
Mais c'est là que tu vois qu'à Paris, au final, à chaque fois, on dit c'est les joueurs. Ok. C'est l'entraîneur. Parce que c'est Paris.
Ouais, alors
toujours
oui,
pas, toujours pas d'annonce officielle
du départ de Christophe Galtier.
Alors qu'apparemment, c'est déjà acté.
Ouais, bah bien sûr.
Mais alors, je sais pas, est-ce qu'ils attendent l'officiation du nouvel entraîneur pour dire on licencie?
Ouais.
Enfin, c'est très bizarre là-dessus. Mais bon, alors tu vois, on dit oui, c'est l'entraîneur qui sait pas gérer le vestiaire, nanana. Quand c'est pas ça, c'est le pseudo directeur sportif, parce que au final, on sait jamais si c'est un vrai directeur sportif ou si c'est un directeur de com. Enfin, c'est là-dessus. Et là, c'est aucun de ces trois-là qui met le bazar, on va dire, dans cette histoire-là. Là, c'est au-dessus. Apparemment, Nasser hier était très énervé quand il a appris ça. Et derrière, c'est limite, ils font un caca nerveux.
Est-ce qu'ils sont pas un peu naïfs sur le fait que Mbappé n'allait pas prolonger?
Mais il l'a dit clairement quand il a signé. En fait, il a fait la prolongation. Quand il a fait la prolongation,
oui,
il a annoncé.
Il avait juste à dire qu'il voulait prolonger et prolonger un an de plus, s'il se sentait bien au PSG.
Oui, mais
et peut-être qu'il pensait qu'ils allaient pouvoir négocier avec lui pour
le problème, c'est qu'ils lui ont promis des choses. L'année dernière, avec l'arrivée d'Ocampos, ouais, tout ça.
De Campos.
On n'a pas vu grand chose.
T'as dit Ocampos?
Ouais.
Campos, du coup.
Ocampos.
Pas le joueur de Séville.
du coup, voilà. On sait pas réellement comment vit le groupe, hein, au final. Oui. Y a eu quand même ces histoires aussi, de pub pour la nouvelle saison.
Oui, le réabonnement, ouais.
Le réabonnement où on l'utilise sans son avis, enfin.
Son accord, ouais.
Son accord, enfin, c'est voilà, c'est.
Le fameux Kylian Saint-Germain, là.
C'est ça, enfin, voilà, c'est, à un moment, c'est, tu vois que, management du club, zéro.
Ouais.
Par contre, oui, pour faire de la communication, et essayer de ramener de l'argent via les maillots, les trucs comme ça, et tout ce qui est autour. Là, par contre, oui, ils sont performants, il n'y a pas de souci. Hein.
Mais en tout cas, voilà, Kylian Mbappé, donc le feuilleton Kylian Mbappé qui peut être lancé. Est-ce que, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que il va vraiment partir cet été? Ou est-ce que le PSG va craquer et va le laisser partir gratos l'année prochaine?
Bah, s'il part cet été, moi, je donne pas cher de Paris. Hein.
Ah, ouais. Bah, là, c'est clair. Hein. Mais après, je sais pas combien il coûterait s'il part. Hein.
Il coûterait cher, actuellement. Après,
le PSG a refusé 180 millions il y a 2 ans pour.
Ouais, je crois que si le Real,
si le Real
payait, c'était à peu près.
Pas dans ces eaux-là, quoi.
Ouais.
Bon, bah, on suivra ça évidemment. Ça va être un feuilleton qui va nous animer tout l'été pour savoir si Kylian Mbappé sera parisien ou pas l'année prochaine ou s'il prolonge d'une saison. On va passer maintenant au reste des actualités qui se sont déroulées ce week-end. Il y avait les demi-finales de Top 14 avec Toulouse qui a battu le Racing 92 41 à 14 et puis les Toulousains qui rejoindront en finale donc La Rochelle qui s'est imposée 24 à 13 contre Bordeaux-Bègles.
Ça va être une belle finale.
Une très belle finale, le remake de la finale de Champions Cup de il y a un an ou 2 ans.
Ah, je sais plus.
L'année dernière, je crois.
L'année dernière, oui.
Et donc voilà, une très belle finale qui aura lieu donc Toulouse samedi.
Toulouse qui est en forme, La Rochelle qui est quand même.
Oui.
Lui aussi en forme et qui est champion d'Europe. Ouais. D'Europe, voilà, enfin.
C'est assez, ça va être une finale prometteuse. Au niveau du cyclisme, vous le savez, ce sera bientôt le Tour de France dans quelques semaines. Avant ça, il y a toujours cette grande répétition lors du Critérium du Dauphiné. Et donc, c'est l'occasion de voir si les favoris sont toujours en jambes en France, eh bien oui, puisque le vainqueur en titre du Tour de France, le Danois Jonas Vingegaard, a remporté ce week-end donc le Critérium du Dauphiné 2023. Il devance donc Adam Yates, Ben O'Connor et notamment des Français Guillaume Martin à la 6e place et Julien Alaphilippe à la 10e place. Et puis les 24 heures du Mans qui se sont déroulées donc bah, au Mans, évidemment dans le fameux circuit du Mans, et pas loin d'ici. Victoire, surprise ou non, de Ferrari après leur grand retour depuis plusieurs années. Ils n'étaient pas revenus
50 ans
sur le bitume Manceau. Et puis Toyota qui termine à la seconde place, eux qui étaient habitués à remporter ces dernières compétitions,
bah, qui étaient en tête
au bout de la première heure.
Ouais, ouais.
Et puis voilà, et puis notamment LeBron James. Ouais. Faustin qui était au coup d'envoi au lancement de ces 24 heures du Mans, qui a un très bon français, un très bon accent, mais enfin voilà, il a dit en gros la phrase de départ, démarrez vos moteurs,
c'est pilote, démarrez vos moteurs, c'est l'équivalent du aux États-Unis gentleman start your engine.
Très bien, et ben voilà, ça a été fait donc ce week-end du côté du Mans.
Ouais.
D'autres infos.
Par contre, ouais. Scénario quand même un peu foufou parce qu'on a eu beaucoup de safety cars,
ouais,
qui ont duré longtemps. Il y a eu les espèces de nouvelles zones drapeau jaune prolongées, enfin qui a posé un petit peu des soucis. Et apparemment, pareil, la victoire de Ferrari, ça se joue vraiment sur un tout petit pépin pendant la course. Comme quoi, faut toujours se méfier des écureuils. Il y a un écureuil apparemment qui rentre en collision avec la Toyota. Et du coup, qui a endommagé, entre autres, la voiture. Bon, il n'y a pas eu que ça pour expliquer la...
Les écureuils du Mans,
c'est la défaite de Toyota. Mais en tout cas, c'était quand même une belle édition parce que ça s'est bien battu aussi. Il y a eu les Peugeot pendant un moment qui étaient devant. Enfin, il y a eu du répondant, il y a eu de beaux écarts bien comblés. Et ça finit finalement, il y a moins de 2 minutes, je crois, d'écart.
Ouais.
Au bout de 24 heures, donc c'est les 100 ans, ça, au moins ça a bien marqué la course, quoi.
Ouais, exactement. Au niveau de la suite de l'émission, pour celle-là, on va terminer dans quelques minutes, mais au niveau de l'été, donc on sera là tout l'été sur Radio G 20h-21h chaque mardi pour parler sport, parce qu'il va se passer encore pas mal de choses, Coupe du Monde de basket, Coupe du Monde de rugby, Coupe du Monde féminine de football, beaucoup de choses à dire.
Enfin trouver un diffuseur.
Voilà, effectivement, qui a trouvé d'ailleurs ce diffuseur. Je crois que c'est M6 et
pas encore tout à fait acté apparemment, mais voilà, c'est un bon terme.
Très bien. Et donc voilà, beaucoup de choses à dire, le mercato, tout ça. Donc on va suivre tout ça. On aura des nouvelles dans quelques jours sur les réseaux sociaux de Génération Sport sur la deuxième édition des Générations d'Or. Et oui, ils reviennent pour 2023. Les Générations d'Or, on prépare nos costards en coulisses pour cette, j'ai envie de dire, cette grande soirée. Bon, ça durera une heure, mais voilà, c'est ce grand événement.
Enfin, la dernière fois, on a dit ça durera une heure et au final, ça s'est transformé en 2 émissions.
Oui, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, bientôt, vous pourrez avoir le sondage pour voter pour les différentes catégories, que ce soit meilleur sportif, meilleure sportive, meilleur espoir, meilleur coach ou meilleur club. Sinon, déjà, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, pour de nouveau décrypter l'actualité sportive. Et puis donc voilà, on va vous laisser avec Imaginaire juste après nous, en vous souhaitant donc une agréable soirée sur Radio G.
imaginaire, c'est le rendez-vous.